Pierre. Pierre écrit une lettre à des chrétiens sous pression. Des chrétiens qui sont sous pression à cause de leur foi. Ils sont insultés, calomniés, ils vivent des situations compliquées. Et Pierre les exhorte à persévérer avec le Seigneur Jésus, en regardant Jésus et en suivant Jésus. Et ce matin, ce n'est pas le texte le plus simple, mais j'espère que vous allez voir que ça reste la même chose, regardant à Jésus, suivant Jésus. J'espère que nous allons nous réjouir parce que Christ est notre substitut et que nous serons fortifiés afin de continuer à vivre pour Jésus, même en situation de souffrance, même si ça coûte cher. Alors, je vous demande de prendre une Bible. Si c'est une Bible blanche, merci de tourner à la page 801. 801, donc c'est 1 Pierre, et je vais lire à partir du verset 18 du chapitre 3. Donc 1 Pierre, chapitre 3, le verset 18 à la page 801. Christ aussi a souffert, et ce une fois pour toutes pour les péchés. Lui le juste, il a souffert pour des injustes, afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. C'est alors aussi qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison, ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé, pendant la construction de l'arche. Un petit nombre de personnes, à savoir 8, sont entrées dans ce bateau et ont été sauvées à travers l'eau. C'était une figure. Nous aussi, maintenant, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ qui est monté au ciel, a reçu la soumission des anges, des autorités et des puissances et se trouve à la droite de Dieu. Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans son corps, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché, afin de ne plus vivre en suivant les désirs des hommes, mais la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre ici-bas. C'est déjà bien suffisant d'avoir, par le passé, accompli la volonté des non-croyants en marchant dans les désordres, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et autres beuveries, ainsi que dans les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans le même débordement de débauche. Et ils vous calomnient. Ils rendront des comptes à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. En effet, l'Évangile a aussi été annoncé aux morts afin qu'après avoir été jugés comme tous les hommes ici-bas, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. C'est la fin de notre lecture pour ce matin. Et dans votre bulletin des chants, vous allez voir les titres pour ce matin. Et donc, premier titre, Jésus le substitut. Jésus le substitut. Parce que pour la troisième fois dans sa lettre, Pierre revient à la mort de Jésus. Christ a souffert. Verset 20-18. Christ aussi a souffert. Il a été crucifié sur une croix romaine et il est mort. Pourquoi? Selon le verset 18, pour les péchés. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le jugement de Dieu contre le péché. Et Christ est mort. Pourtant, Jésus n'avait pas commis de péché. Nous l'avons lu dans le chapitre 2, à partir du verset 22. Christ n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de tromperie. Insulté, Jésus n'a pas rendu insulte. Maltraité, Jésus ne faisait pas de menace. Pendant son procès devant l'autorité romaine, trois fois Pilate a dit que Jésus était innocent. Pourtant, nous lisons que Jésus a souffert pour les péchés. Et c'est parce que Jésus-Christ, le juste, a souffert pour les injustes. Celui sans péché, il a souffert pour les avec péché. L'innocent a souffert à la place des coupables. Un échange a eu lieu avec le but de nous conduire à Dieu. Et donc ça veut dire que nous pouvons désormais connaître Dieu. Le chemin est ouvert. Nous n'avons plus à garder nos distances. Nous n'avons plus à nous demander comment nous approcher de Dieu. Nous n'avons plus même à craindre le jugement de Dieu parce que Jésus s'est substitué afin de nous conduire à Dieu. Une image. Imaginons que ma main droite nous représente. La lumière dans la salle représente Dieu. Et ce tissu noir représente notre péché. Tout ce que nous faisons de mal, tout ce que nous disons de mal, tout ce que nous pensons de mal, ça nous met en conflit avec Dieu. Ça nous sépare de lui. Et Dieu qui est bon, qui ne tolère pas le péché, le mal, Dieu qui est parfait, jugera, rendra justice pour le mal. Alors nous sommes en face du jugement de Dieu pour notre péché. Nous sommes séparés de lui, en conflit avec lui. Mais ma main gauche peut représenter Jésus. Il n'a jamais commis de péché. Il a toujours vécu selon la volonté de Dieu. Il était en relation parfaite avec Dieu. Mais à la croix, un échange a eu lieu. Et Jésus, il a souffert pour le péché. Lui, le juste, il est mort pour les injustes, afin de nous conduire à Dieu. La punition est tombée et nous pouvons désormais connaître Dieu. Jésus, le substitut. Et est-ce que vous avez aussi remarqué dans le verset 18 que Christ aussi a souffert, et ce une fois pour toutes? Une fois pour toutes. Ça veut dire que celui qui fait confiance à Jésus, son substitut, n'a plus rien à faire, n'a rien à faire de plus à faire pour le pardon de ses péchés. Il n'y a plus rien à faire pour gagner le pardon de Dieu, mériter l'amour de Dieu, pour avoir accès à Dieu. Car la punition est tombée. Nous sommes libres. Jésus nous conduit à Dieu. Christ a souffert une fois pour toutes pour les péchés. Et cette vérité a été déclencheur dans la réforme protestante. Cette semaine, ça va être le 31 octobre, non pas une fête de citrouilles, mais l'anniversaire d'un événement qui a lancé la réforme protestante. Il y a 502 ans, un moine allemand, Martin Luther, il a affiché ses 95 thèses sur les portes d'une église à Wittenberg. Martin Luther et ses confrères, ils voyaient de plus en plus un décalage entre ce qu'ils lisaient dans la Bible et ce qu'ils voyaient dans l'Église actuelle, ce que nous appelons aujourd'hui l'Église catholique. D'abord, Martin Luther, les autres protestants, ils comprenaient que c'est Christ seul qui sauve par la foi seule. Ils comprenaient que Jésus avait tout fait, qu'il n'y avait rien de plus à ajouter, que Jésus seul nous conduit à Dieu. C'est l'évangile, la bonne nouvelle du christianisme qu'ils ont découvert à nouveau. Plus spécifiquement, les protestants ont aussi compris les enjeux pour la messe catholique. À la messe, selon la doctrine catholique, Christ est offert en sacrifice à nouveau. Je cite le catéchisme de l'Église catholique. Et puisque ce divin sacrifice qui s'accomplit à la messe, ce même Christ qui s'est offert lui-même une fois de manière sanglante sur l'autel de la croix, et continue et immolé de manière non sanglante, ce sacrifice, c'est-à-dire la messe, est vraiment propitiatoire. Donc il me semble que ça veut dire que dans la messe catholique, il y a un nouveau sacrifice, pour les péchés. Propitiatoire, ça veut dire ça rend Dieu propice. Ça nous met en bon terme avec Dieu. Or, Jésus-Christ a souffert une fois pour toutes à la croix. Martin Luther et les autres protestants, ils ont été bien sécués par cela. Si ça vous secoue, on peut en parler plus après. Mais c'est pour cette raison que ici nous faisons attention de dire, avant de partager le repas du Seigneur, que nous mangeons et buvons en mémoire de ce que Christ a fait il y a 2000 ans. Nous plaçons notre confiance dans l'échange qui a eu lieu à la croix. Une fois pour toutes. C'est une très bonne nouvelle pour nous ce matin. Jésus, lui est le substitut. Lui est le substitut. Par la foi, il devient notre substitut qui nous conduit à Dieu. Premier titre, Jésus le substitut. Deuxième titre, Jésus le vainqueur. Le verset 18 termine. Il a souffert une mort humaine, il est mort sur la croix, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. Parce que Jésus n'est pas resté mort, il n'est pas resté dans le tombeau, mais Jésus est revenu à la vie. Par l'Esprit, il est revenu à la vie. Le tombeau était vide, Jésus a apparu à ses disciples, il a marché, il a mangé, il a discuté avec ses disciples. Et nous voyons la suite à la fin du verset 21. À la fin du verset 21, il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ, qui est monté au ciel, a reçu la soumission des anges, des autorités et des puissances, et se trouve à la droite de Dieu. Donc Jésus est mort, il est revenu à la vie, et ensuite, Il n'est pas resté sur terre, mais il est monté au ciel. Il règne comme roi suprême. Et toutes les autorités, tous les êtres spirituels sont soumis à lui. Et selon la Bible, les chrétiens attendent, nous attendons, son retour, où Dieu jugera et mettra fin à tout ce qui s'oppose à lui. Jésus, le vainqueur, il est monté au ciel, il a reçu toute soumission. Il se trouve à la droite de Dieu. Jésus est le vainqueur. Non seulement a-t-il accompli le sacrifice parfait pour le péché, mais il a vaincu la mort en revenant à la vie. Et c'est un encouragement puissant pour les chrétiens qui souffrent à cause de sa foi. Et c'est dans ce contexte qu'il faut comprendre les versets un peu étranges, les versets 19 et 20. Les versets 19 et 20. À mon avis, ce sont parmi les versets les plus compliqués du Nouveau Testament. Pierre comprenait ce qu'il écrivait. Ses lecteurs aussi. Mais 2000 ans plus tard, nous ne partageons pas les mêmes références culturelles, religieuses. Et donc, la tâche semble plus compliquée pour nous. Ce que nous lisons dans le verset 19, c'est que Jésus est allé faire une proclamation aux esprits en prison. Des esprits qui avaient été rebelles à l'époque de Noé. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous propose une interprétation qui me semble cohérente avec le contexte. Là aussi, venez me poser vos questions après. Si vous tournez la page de Pierre 2, le verset 4, nous lisons, en effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. 2 Pierre 2, verset 4. En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités et enchaînés dans l'abîme, là où règnent les ténèbres, pour qu'ils y soient gardés en vue du jugement. Donc, dans une autre lettre, Pierre parle des anges rebelles gardés en prison en vue du jugement. Deuxième référence, si vous regardez Genèse 6, peut-être pas maintenant, mais si vous regardez Genèse 6, avant de parler du déluge, nous lisons des fils de Dieu, qui se sont rebellés contre Dieu par l'immoralité sexuelle. Il est possible que ces fils de Dieu rebelles de Genèse 6, que les anges qui ont péché de Pierre 2, soient aussi ces esprits en prison dans 1 Pierre 4. Et dans sa victoire de résurrection, Jésus a proclamé sa victoire à ces esprits, ces anges rebelles de l'époque du déluge. Jésus a proclamé sa victoire. Il leur a sûrement rappelé aussi du jugement à venir. Et ces esprits, ces anges déchus, se seraient soumis à Jésus. Comme nous lisons au verset 22, que toutes les autorités... toutes les autorités, les anges, les puissances se sont soumis à Jésus-Christ. Et donc Jésus est vainqueur. Par sa résurrection, Jésus a vaincu la mort et aussi le mal et aussi le malin. Les anges et les démons se soumettent à lui. Certes, nous continuons aujourd'hui à voir les effets tristes de la mort, du mal et du malin. Jésus est vainqueur, il règne au ciel, il a reçu la soumission de toutes choses, et un jour, nous verrons le jugement de Dieu, la fin de toute opposition à Dieu. Jésus est vainqueur, et là aussi, c'est une bonne semaine pour nous souvenir que Jésus est vainqueur. Quand j'étais garçon, je n'appréciais pas la période d'Halloween, les images de fantômes, de sorcières partout. Et la Bible reconnaît l'existence de puissances spirituelles, les bonnes comme les mauvaises. Nous avons raison de garder nos distances. Mais Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Après sa mort à la croix et sa résurrection, Jésus a proclamé sa victoire aux esprits rebelles. Et un jour, tout ce qui s'oppose à Dieu sera jugé. Jésus, le vainqueur. Jésus, aussi le Sauveur, le verset 21, nous lisons aussi que l'arche de Noé était une image du baptême qui est aussi une image de la mort, de la résurrection de Jésus. Dans l'arche, un petit nombre a été sauvé. Un petit bateau les a sauvés des eaux du jugement. Et c'est une image du baptême qui est aussi une image de la mort et de la résurrection de Jésus. Le baptême, ce n'est pas nous laver de la saleté, mais c'est montrer notre engagement, notre foi en Jésus-Christ, le vainqueur, celui qui a souffert pour nos péchés. Jésus le substitut, Jésus le vainqueur, et pour finir, Jésus l'exemple. 4, verset 1. Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans son corps, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Christ a souffert dans son corps, et donc Pierre nous exhorte comme un soldat, le disciple de Christ doit se préparer à souffrir dans son corps aussi. Toujours le verset 1, celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché. C'est-à-dire, si quelqu'un souffre à cause de sa foi, ça montre la réalité de leur foi, ça montre très clairement qui ne veut plus vivre avec le péché, mais qu'il a fait un demi-tour pour suivre Jésus, pour chercher à vivre pour la volonté de Dieu, et non pas en poursuivant les passions, les désirs déréglés de notre société. Le verset 3 nous aide. C'est déjà bien suffisant d'avoir, par le passé, accompli la volonté des non-croyants en marchant dans les désordres, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, les autres beuveries, ainsi que dans les idolâtries criminelles. Donc, Pierre parle à des chrétiens qui se sont convertis après avoir vécu une vie normale en société. Une vie normale en société qui comprenait le fait de poursuivre sans limites leurs envies, leurs passions, leurs désirs, leurs appétits. Mais Pierre dit, non, 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 vous avez assez traîné dans cette boue. Maintenant, poursuivez la volonté de Dieu. Poursuivez la volonté de Dieu, même si ça veut dire que vos collègues, vos amis sont surpris par votre nouvelle vie. même si ça veut dire qu'il vous calomnie. Et Jésus est notre exemple. Il a su faire en suivant la volonté de Dieu. Et Pierre nous exhorte. Le disciple de Jésus est exhorté, est appelé aussi à suivre Jésus, à souffrir en suivant la volonté de Dieu. Le verset 5 nous rappelle que, au-delà de la souffrance, en poursuivant la volonté de Dieu, Dieu jugera le mal et il y a la promesse de la nouvelle vie avec Dieu. Le verset 6, en effet, l'évangile a aussi été annoncé aux morts, c'est-à-dire les chrétiens qui sont maintenant morts, afin qu'après avoir été jugés comme tous les hommes ici-bas, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. C'est-à-dire que les chrétiens qui sont morts, ben aujourd'hui, ils vivent avec Dieu. Ils vivent le début, les premiers fruits de leur nouvelle vie avec Dieu. Et donc aujourd'hui, si nous suivons Jésus, nous devons nous poser la question, si je suis disciple de Jésus, comment est-ce que ça change mon rapport aux désirs, aux passions que notre société cherche à satisfaire à tout prix, sans limite? Comment est-ce que ça change mon rapport à l'alcool, à la nourriture, au sexe? Si vous êtes devenu chrétien un peu plus tard dans votre vie, peut-être que vous voyez clairement comment vous avez suivi les passions de la société actuelle par le passé. Et peut-être vos amis vous disent aujourd'hui, mais tu n'es plus le même. Tu n'es plus le même. Et en fait, avant, tu n'hésitais pas à nous accompagner. Mais franchement, aujourd'hui, tu es un rabat-joie. Peut-être. Si vous avez connu le Seigneur depuis un jeune âge, il se peut que vous ayez été protégé de certaines choses. Vous ayez été protégé de vous lancer dans les passions de la société actuelle. Et nous pouvons remercier le Seigneur pour cela. Mais ça n'empêche pas que nous allons nous démarquer, nous distinguer aujourd'hui quand nous ne suivons pas la foule. Car le but reste, non pas de nous isoler en tant que chrétiens, mais de suivre la volonté de Dieu. De suivre la volonté de Dieu au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, il remarque votre belle manière d'agir. C'était le verset 12, chapitre 2. Et donc, peut-on imaginer le joueur de sport qui décide que c'est plus facile de ne rien boire au troisième mi-temps de son club afin de rester sobre et maître de lui-même, même s'il est charrié par ses coéquipiers? Peut-on imaginer la femme qui choisit de ne pas lire le dernier best-seller d'auteur, bien qu'elle se sente exclue quand ses copines en parlent? Peut-on imaginer l'étudiant chrétien qui choisit de ne pas participer au week-end d'intégration de son école, un week-end d'intégration bien arrosé, mais qui fait quand même tout, pour faire connaissance de ses camarades de classe à d'autres moments. Pierre nous exhorte à être prêts à souffrir en suivant notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus le substitut, Jésus le vainqueur, et Jésus l'exemple. Que nous puissions recevoir et nous réjouir de l'échange accompli à la croix par Jésus, le substitut. Que nous soyons aussi rassurés par la victoire de Jésus. Il est le vainqueur sur toutes les forces du mal. Et que nous soyons aussi fortifiés à suivre Jésus, à suivre son exemple, en étant prêts à souffrir au lieu de poursuivre tout ce que notre société pourrait nous proposer. Prions pour finir. Prions. Notre bon Père Céleste, nous avons déjà chanté ce matin que nous repensons au sacrifice de Jésus-Christ qui s'est humilié jusqu'à la mort. Nous avons aussi chanté de comment Jésus règne dans les lieux très hauts où devant notre roi, nous nous inclinerons. Merci pour à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort une fois pour toutes pour les péchés. Merci aussi parce que c'est lui le vainqueur. Et nous voyons son exemple. Il a suivi ta volonté malgré les souffrances. Merci de nous fortifier aussi pour suivre ta volonté dans la vie quotidienne, en société, malgré les souffrances, malgré tes calomnies. Et nous prions ça pour ta gloire. Amen. Amen.